Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis juriste responsable des projets de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, ou la GFO tout court, et je vais m'occuper de la modération de cette entrevue. La GFO est une organisation à but non lucratif qui a comme objectif d'assurer l'accès à la justice en français en Ontario. Ce balado est réalisé dans le cadre du Programme pour la prévention de la violence basée sur le genre. La GFO aimerait remercier l'Office de la condition féminine pour leur appui financier dans ce projet.
Nous avons avec nous Maître Sam Puhala, avocate criminaliste chez Conran Law à London, en Ontario. Merci d'être avec nous.
Merci, bonjour.
Aujourd'hui, nous allons discuter de l'impact de la violence conjugale dans le système de justice pénale. Notre objectif est de sensibiliser le public quant aux enjeux entourant les femmes victimes de violences conjugales qui se retrouvent devant nos tribunaux pénals. Sam, je vais commencer par vous demander, dans quel contexte est-ce que vous voyez des femmes victimes de violences dans le cadre de votre travail?
Oui, merci de m'avoir. J'ai hâte de parler à ce sujet parce que il y a très peu, je pense, d'informations qui sont disponibles à des femmes pour ce genre de choses. Donc, moi, je suis une avocate criminaliste basée à London. Et puisque je suis une avocate criminaliste, je travaille principalement en défense criminelle. Donc, le contexte dans la violence conjugale que normalement moi je vois, c'est quand je représente des accusés qui sont généralement des hommes. Il y a des femmes aussi. C'est généralement dans le contexte de la contre-interrogatoire lors d'un procès que je fais affaire avec des femmes qui ont subi des allégations de violence conjugale parce que je représente l'autre côté, donc c'est la défense. Mais notre cabinet à Conran Law, et notamment mon partenaire Carolyn Conran, on représente aussi les intérêts des plaignantes qui portent plainte pour la violence conjugale ou des agressions sexuelles. Et c'est dans ce contexte-là que lors de la représentation des plaignantes, je peux aider comme avocate qui connaît les deux bords de la situation et comment le processus criminel se passe, c'est d'aider aux plaignantes à comment naviguer le système, comprendre le processus criminel et aider à naviguer les barrières à la justice dans le processus criminel.
Merci beaucoup. Justement, avant notre rencontre, je ne savais même pas qu'une femme pouvait engager une avocate en droit pénal pour l'aider à naviguer le système. Alors, c'est vraiment l'information importante. Puis, je pense que les autres avocates, les autres avocats, puis les femmes victimes de violences conjugales devraient savoir que c'est une option pour elles.
Maintenant, on sait qu'il y a certains défis qui se posent pour des femmes victimes de violences qui vont faire face au système de justice pénale en Ontario. Est-ce que vous pouvez discuter un peu de ça?
Oui, je pense que vous avez soulevé le premier point, c'est qu'il y a un énorme manque d'informations dans le public. Donc, la sensibilisation des groupes ciblés, c'est excellent de faire. Parce que exactement, il y a des services là qui peuvent aider des femmes au début du processus. Donc, même de savoir que oui, les femmes peuvent engager des avocates qui se spécialisent dans ce domaine. Donc, c'est pas chaque avocat criminaliste qui vont offrir ces services-là, il faut vraiment faire de la recherche parce que, comme j'ai dit, la plupart des avocats criminalistes qui ne sont pas des couronnes qui travaillent pour le gouvernement, ce sont des avocats en pratique privée qui font la défense exclusivement. Donc, il faut trouver des avocats qui spécialisent à ça. Mais d'autres barrières, c'est que le processus criminel n'est pas centré sur des plaignantes. Donc, la plupart, comme j'ai dit, il y a un manque d'informations. Donc, les plaignantes, lorsqu'elles vont porter plainte, il y a une infraction criminelle qui est créée dans le système. Elles vont peut-être penser qu'il y a deux côtés, tu sais, qu'il y a l'accusé qui a un avocate de la défense et la couronne. Donc, la couronne, c'est le service prosecutorial qui va représenter les intérêts de l'État et mener l'affaire de l'avant. Donc, s'il y a un procès qui se passe, c'est la couronne qui va faire la prosecution de l'accusé. Mais la couronne n'est pas là pour représenter les intérêts nécessairement de la plaignante. Elle, ses intérêts sont comme une troisième partie et vraiment, c'est là où l'avocat ou la représentation juridique pour cette plaignante va rentrer en jeu parce qu'il y a des fois où l'intérêt public va varier de l'intérêt de la plaignante. Donc, puisque le processus criminel est centré autour, moi, je dirais, de l'accusé, c'est très frustrant des fois pour la plaignante parce qu'elle ne comprend pas pourquoi certaines étapes sont prises. Et par exemple, il y a des accusations qui sont abandonnées pour les délais. Il y a des accusations qui sont abandonnées pour d'autres causes. Des fois, la couronne, à cause des pressions juridiques, tout le backlog du système, surtout en ce moment, elle ne va pas comprendre pourquoi les étapes sont prises par la couronne. Et c'est là qu'un avocat qui connaît le système va pouvoir vulgariser et rendre accessibles ces informations très techniques, des fois juridiques, pour faire comprendre. Donc, même si le résultat ultime, c'est faire abandonner des charges, c'est d'agression sexuelle violente, par exemple, parce qu'il y a un délai important. Ça, c'est dévaste comme résultat, mais un avocat peut expliquer et même peut-être urger à la couronne de prendre des étapes, si, tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle qu'un avocat ou une avocate pour une plaignante peut faire, mais c'est quelque chose qui aide vraiment à la plaignante d'être située dans le processus, parce qu'il y a des services qui existent pour aider des plaignantes, donc notamment le programme d'aide aux victimes. Il y a aussi d'autres agences non gouvernementales qui vont aider, mais ces organismes n'ont pas généralement des avocats. Et pour des avis juridiques, ça nécessite un avocat qui est spécialisé, qui connaît la cause, donc notamment des avocats criminalistes comme moi, qui voient ces réalités à chaque jour. Donc, des défis, c'est de ne pas avoir contrôle des processus ou la compréhension. Mais c'est aussi de, tu sais, il y a d'autres barrières pour quand même porter plainte. Donc, toutes sortes de défis et de barrières, mais sûrement un avocat criminaliste peut aider avec ça dans la pratique privée.
Merci beaucoup pour votre réponse, Sam. Ces barrières-là vont faire en sorte que plusieurs femmes vont avoir une grande hésitation à même commencer le processus pénal puis aller faire une plainte à la police. Est-ce que vous pouvez parler un peu de pourquoi il y aurait cette hésitation-là même d'aller à la police dès le début?
Oui, c'est un bon point. C'est quelque chose que, notamment dans des agressions sexuelles, on voit beaucoup de ça. Et d'autant davantage de l'importance de peut-être consulter un avocat pour faire ce choix-là. Donc, moi, je reçois beaucoup d'appels pour des consultations de comme... Voilà ce qui s'est arrivé parce que c'est confidentiel. Ce que vous, tu sais, une femme va divulguer à un avocat va toujours rester confidentiel. Et donc là, de faire même le choix si on veut procéder avec une accusation, c'est vraiment une grande décision. Il y a beaucoup de choses à réfléchir et des hésitations que les gens vont partager. Et des fois, c'est des membres de la famille. Donc, des fois, il y a des membres de la famille qui vont m'approcher pour dire, tu sais, X, Y, Z, qu'est-ce qu'on fait? Mais le rôle d'un avocat, c'est vraiment précis sur leur client. Donc, peut-être, tu sais, la femme veut avoir quelque chose de différent que l'homme dans la question. Tu sais, des fois, même, il y a des questions super spécifiques de l'inceste. Tu sais, des parents vont trouver des choses qui sont arrivées, qui sont assez traumatiques. Et peut-être, tu sais, la sœur ne veut pas venir en avant, mais la frère a honte et veut, tu sais, divulguer. Donc, il y a toutes sortes de situations, mais je dirais la première barrière qui se présente, c'est généralement la honte. Il y a la honte et la peur peut-être du processus. Donc, je pense que la peur de l'inconnu, c'est très puissant. Donc, encore une fois, si la consultation avec un avocat pour la plaignante va aider à démystifier et de répondre à plusieurs questions. Donc, la peur de l'inconnu, peut-être ça va aider beaucoup. Mais la honte de juste comme partager l'histoire et les traumatismes qui sont évidents avec les incidences qui vont... c'est faire appel à une femme de porter plainte. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais dire à personne, pas une avocate, pas la famille, pas la police, tu sais, aller à la police, qui sont généralement des hommes, et divulguer des choses très intimes comme ça, c'est une affaire difficile, objectivement, pour n'importe qui. Et là, potentiellement faire partie d'un procès criminel qui est centré autour de l'accusé et la présomption d'innocence. Je peux dire que, tu sais, il y a beaucoup une crainte à le processus et de faire réponse à la contre-interrogatoire éventuelle qui pourrait faire partie d'un procès parce que il y a deux sortes de situations dans des affaires d'agression sexuelle ou de violence conjugale. Normalement, soit l'accusé va plaider coupable ou soit il va amener l'affaire en procès. Et c'est un choix qui appartient uniquement à l'accusé. La plaignante n'a aucune décision dans ça. Donc, même si quelqu'un est coupable, la femme dit « voilà qui m'est arrivé », mais l'homme va nier. Il peut amener ça en procès s'il n'a pas donné une déclaration. Là, c'est la défense qui va essayer d'attaquer la crédibilité de la plaignante en procès. Et je peux dire que le processus, subir une contre-interrogatoire, c'est pas une expérience que je souhaite à personne. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire comme, Ouais, tu peux porter plainte, mais voilà qu'est-ce qui va arriver plus tard. Et t'sais, je veux pas nier le travail important que les avocats de la défense font parce que c'est principalement ce que je fais. Mais veux pas, c'est quelque chose qui va critiquer la crédibilité d'un témoin, donc dans ce cas, la plaignante. Et c'est quelque chose qui est difficile. Donc, je dirais la honte de porter plainte, la peur de, t'sais, le processus criminel, de naviguer tout ce système sans quelqu'un, comme un champion, qui peut. C'est valider l'expérience des femmes. Et aussi, comme j'ai dit, le 3, c'est vraiment accentué sur l'accusé. Donc, la divulgation de la preuve, par exemple. L'accusé va avoir la divulgation à toute la preuve et la défense n'a pas la même obligation, sauf dans certains cas spécifiques, en agression sexuelle. Peuvent amener des textos, des courriels du passé que peut-être la plaignante n'a pas réalisé ou elle a oublié qu'elle a envoyé ces choses-là. Puis la défense va utiliser ça. Si l'affaire va aller en procès, ils vont utiliser ça pour essayer de soulever un doute raisonnable. Donc, la fardeau de la preuve est très élevée. En droit criminel au Canada, c'est un bon système, mais on vit dans une société qui privilégie la présomption de l'innocence et qui, tu sais, on dit qu'on aimerait mieux l'acquittement de 9 personnes coupables au lieu d'avoir une condamnation d'une personne innocente. Donc, il y a beaucoup, je pense le résultat peut être très triste pour des plaignants parce que normalement, il n'y a pas des témoins, tu sais, dans la violence conjugale, des agressions sexuelles, c'est des choses très intimes qui généralement sont pas en public. Donc, vraiment, c'est le témoignage de la plaignante contre le témoignage de l'accusé. Et donc, s'il y a un doute raisonnable, même si le juge ou la juge va trouver que les événements ont peut-être ou probablement arrivé, c'est pas assez pour décharger la fardeau de la preuve de hors de tout doute raisonnable. Donc, là, on a beaucoup d'acquittements qui causent, tu sais, la tristesse ou beaucoup de traumatisme parce que là, tu étais assez forte comme plaignante d'aller en avant, de redire ton histoire. Et il y a aussi le fait que par le temps qu'on arrive en procès, il va avoir peut-être 2 ou 3 versions de l'histoire. Et avec le passage du temps, personne n'est parfaite. Tu sais, le mémoire, des fois, ça, c'est pas parfait. Donc, dans les 2 ou 3 versions de l'histoire, parce que tu dois donner ta déclaration à la police. Ensuite, s'il y a une enquête au préalable dans certaines causes, là, c'est de donner ton témoignage sous serment lors d'une enquête préalable. Et ensuite, le procès propre. Donc là, et des fois, ça prend des années. Donc là, tu as 3 différentes versions de l'histoire. Et si c'est pas parfaitement la même, c'est sûr que la défense va soulever des incompatibilités entre ces histoires pour essayer de soulever ce doute raisonnable. Et donc, il y a des changements dans la législation qui sont arrivés assez récemment où ils ont enlevé des enquêtes au préalable, notamment pour des agressions sexuelles. Et ça a causé un grand changement dans la façon qu'on procède en procès criminel pour ces infractions sexuelles parce que la législation, ils ont reconnu à quel point c'est traumatique pour des femmes de repartager leur histoire de temps en temps encore. Donc là, maintenant, avec des agressions sexuelles simples entre adultes, il n'y a pas accès pour la défense à une enquête au préalable parce que ça épargne la femme de partager son histoire sous serment une deuxième fois, c'est une troisième fois dans ce cas. Donc, je dirais que le retraumatisme, c'est la réalité du système de justice criminelle et la honte, ce sont tous des barrières très importantes. Et des fois, c'est tellement, ça cause tellement une crainte qu'il y a des femmes qui vont jamais se porter plainte parce qu'elles réalisent à quel point c'est difficile. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de changements dans la législation, notamment en affaires d'agression sexuelle, très techniques que seulement des avocats très spécialisés en affaires criminelles vont comprendre, parce que c'est très nouveau. Il y a des causes à la Cour suprême de cette année qui ont amener des changements très importants. Et ça, c'est pour essayer de protéger les femmes lors de ce processus difficile. Donc, il y a des progrès se sont faits, mais c'est encore très difficile. Il y a beaucoup de barrières à soulever. Une avocate peut aider avec comprendre cette situation pour faire un choix informé.
Merci beaucoup. Puis, on a parlé beaucoup jusqu'à date de la possibilité d'une femme plaignante de consulter une avocate ou un avocat. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'abordabilité de cet engagement-là? C'est quoi les coûts? Est-ce qu'il faut payer un montant au début et ensuite l'avocate ou l'avocat est engagé pour le reste des procédures? Peut-être juste nous donner un peu une idée à quoi s'attendre si jamais on pense engager quelqu'un pour nous aider dans ce processus-là.
Oui, c'est une très bonne question parce que, comme j'ai dit dans les défis, dans une question plus tôt, là, ça peut devenir un accès à la justice parce que, notamment, des avocats, des avocates, nos coûts, ça peut être des coûts assez importants. Je dirais que chaque avocat, avocate va travailler d'une façon un peu différente. Donc, il y a beaucoup d'avocats, avocates qui vont peut-être offrir des consultations gratuites. Donc, ça, certainement faire profiter de ces consultations gratuites si ça existe. Nous, à notre cabinet, on charge par l'heure, donc pour une consultation pour des plaignants, tu sais, parce que ça peut peut-être être considéré comme une injustice, mais il n'y a pas un droit absolu à un avocat ou une avocate comme plaignant, tu sais. La Charte des droits et libertés du Canada, il y a un droit à un avocat, puis l'État va payer pour un avocat si c'est éligible. Mais la même chose n'est pas vraie pour la plaignante. Donc, normalement, ça va être un engagement privé, donc il faut payer pour ça. Comme j'ai dit, on a représenté des plaignantes et ça vaut la peine, je pense, de faire si des personnes peuvent permettre ce coût. Parce que même pour une 30 minutes ou une heure, on peut répondre, un avocat peut répondre à plusieurs questions qui vont soulager beaucoup le restant du processus. Donc, je dirais absolument, s'il y a des consultations gratuites, profitez de ce processus parce que ça peut peut-être répondre à toutes les questions que vous avez et de là, la couronne peut, t'sais, faire avancer la cause. Mais c'est normalement dans notre cas surtout, normalement, on appelle ça des engagements limités, donc limited scope retainer, parce que c'est pas comme bâtir toute une défense. Donc, le coût total va être beaucoup moins que comme bâtir une défense pour un accusé, parce que c'est vraiment juste un taux horaire normalement ou un taux total. Il y a des avocats qui font comme des flat fees. Nous autres, on fait des taux horaires par heure. Et donc, ça peut être des centaines de dollars par heure, mais si vous avez seulement besoin de quelques heures, c'est beaucoup plus accessible que comme monter toute une défense. Donc, je dirais, dans mon expérience, la représentation des plaignantes, normalement, c'est en bas de quelques 1 000 $. Donc, c'est peut-être quelques centaines de dollars à quelques 1 000 $ parce que ça dépend combien de temps vous avez besoin. Donc, une plaignante qui veut vraiment préparer pour un procès puis avoir plusieurs rencontres où on peut vraiment comme préparer pour la contre-interrogatoire. Voici quelques exemples de comme des types de questions que l'avocat de la défense va peut-être vous poser. Et ça peut faire la différence de, tu sais, il y a moins, c'est très stressant d'avoir des questions posées où vous n'avez jamais pensé à ça et un avocat peut vous aider à faire ça. Donc, normalement, la cour va vraiment varier du temps qui est nécessaire et la nature de la cause parce qu'il y a aussi il y a des situations très précises où l'État va payer pour un avocat de l'aide juridique pour la plaignante. C'est vraiment dans des causes spécifiques en agression sexuelle. Donc, il faut vraiment être à flux de ça parce que là, ça va être comme payé pour vous. Mais comme j'ai dit, même si c'est au niveau privé pour un engagement limité, c'est généralement, nous comme avocats, on veut aider des gens. Donc, on va essayer de travailler avec des gens, avec des plans de paiement et tout ça. Mais ça va être beaucoup plus accessible que la défense, tu sais, parce que c'est vraiment quelque chose de très limité pour donner des avis juridiques et répondre à des questions et naviguer le système.
Merci beaucoup pour la clarification. Je suis sûre que c'est l'information qui est extra utile pour nos auditeurs et nos auditrices, que ce soit des professionnels de la justice ou des membres du public.
Ça pourrait même les encourager à aller faire la plainte à la police. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire c'est quoi qui va arriver une fois que la femme qui a subi de la violence à la maison va aller porter plainte à la police?
Oui, c'est des informations qui, comme j'ai dit, c'est très bénéfique de savoir ces affaires peut-être avant même de porter plainte. Parce que une chose, et je ne peux pas donner des avis juridiques dans le cours de ce type de panel, mais donc ce sont tous des informations. Mais lors d'un appel, donc si vous appelez un avocat puis vous faites une consultation, là, l'avocat peut entrer dans les situations spécifiques de chaque femme et donner des avis précis. Donc, mais de façon générale, pour des informations générales, comment ça se passe, c'est que aussitôt que la police est impliquée, immédiatement, il y a des conditions de non-communication qui sont faites et c'est ordonné. Donc, légalement, l'accusé n'est pas capable de répondre. Donc, même si la femme veut s'engager avec l'accusé, tout de suite, s'il y a des infractions criminelles qui sont impliquées, il ne peut pas avoir communication entre ces parties. La situation de chaque personne est différente. Même si la femme ne veut pas que des accusations criminelles elle ne veut pas ce processus de commencer. La police, ils ont des mandats, ils doivent procéder des fois. Et de là, c'est la couronne qui va décider si ça procède ou non. Donc, même si l'avis de la plaignante va être considéré, eux, ils ont des mandats différents. Donc, c'est très important dès le début que la femme, la plaignante potentielle, réalise les conséquences et les logistiques qui vont souvent arriver tout de suite après que la plainte est portée. Donc, par exemple, puisque les deux parties ne peuvent pas être en communication pour la protection de la femme, généralement, quelqu'un doit partir du domicile. Donc, si le couple ne vit pas ensemble, c'est pas problématique de cette façon-là, mais je vais vous donner un exemple assez extrême. J'ai déjà représenté, dans ce cas, l'accusée est une femme parce que ce qui s'est arrivé, il y avait une dispute une nuit parce que la femme, dans ce cas, un couple marié, la femme était intoxiquée, puis il y avait un argument et l'homme ne savait pas quoi faire avec elle à cause le niveau d'alcool qui était consommé dans cette situation. Et donc, il a appelé la police, mais il n'a pas appelé la police parce qu'il voulait, c'est faire arrêter sa femme. Il voulait juste appeler la police pour l'aide. Et souvent, les gens, notamment les femmes qui sont victimes de violences conjugales, vont appeler la police pour comme de l'aide. Mais aussitôt qu'il est rentré, il a dû séparer la couple. Donc, il y a une séparation immédiate. Et elle a dû quitter la maison maritale. Elle ne pouvait pas communiquer avec son mari. Ils avaient des enfants d'âge de comme 9 et 10. Elle pouvait pas rentrer chez elle. Et donc, le mari m'appelait parce qu'il disait comme, wow, like, je voulais pas tout ça. Dans ce cas, le plaignant était un homme, mais normalement, c'est l'inverse. Mais j'ai dit comme, il y a rien que je peux faire. J'ai dû contacter la couronne. Puis, il y a des contextes précis où des fois, on peut avoir des variances de conditions pour permettre la communication avec le consentement du plaignant dans ce cas, mais la plaignante normalement, mais c'est pas toujours possible. Donc, si c'est vraiment des accusations comme violentes, normalement, la couronne ne va pas consentir à des variations pour permettre la communication. Et dans ce cas-là, comme ils avaient plusieurs logistiques comme le paiement des factures et tout ça, et ils n'étaient pas capables de communiquer sauf à travers un avocat. Donc, au moins, là, la police, ils ont mis une exception pour permettre la communication à travers un avocat, donc moi. Mais ils ont dû payer mon taux horaire pour comme faire des choses logistiques, puis c'était vraiment injuste. Donc, heureusement, la couronne, dans ce cas-là, j'ai pu faire une motion urgente. Ça a quand même pris des semaines, parce qu'il y a vraiment un backlog avec toutes les affaires, surtout en ce moment. Mais j'ai dû faire une motion urgente pour avoir une variation à la condition pour qu'elle retourne chez elle. Mais elle n'a pas vu ses enfants pour comme des semaines. Et c'était vraiment stressant pour cette famille-là. Donc, tout ça pour dire que comme il y a des conditions immédiates de non-communication et de prévenir, tu sais, normalement c'est 100 mètres, tu peux pas rentrer à l'adresse X. Et si l'adresse est partagée, ben bon, l'accusé normalement va devoir partir. Si vous pouvez consulter un avocat en avance de ce processus, ça va peut-être épargner beaucoup de maux de tête et ça va faciliter le processus parce que c'est déjà très difficile au niveau émotif. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est des difficultés logistiques aussi. Donc,
Une super discussion avec une avocate criminaliste aujourd'hui. J'aimerais te remercier, Sam, d'avoir pris le temps de nous joindre afin de sensibiliser le public aux défis que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences dans le système pénal.
On vous encourage à écouter les autres balados disponibles sur la page web de l'AGFO qui est dédiée à ce programme et à très bientôt.